Plan large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Plan large, l'encyclopédie vivante du cinéma. Aujourd'hui, R comme Renoir, Jean Renoir, avec Sylvie Patry, Bernard Eisenschitz et Charlotte Garçon. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large. C'est un cas probablement unique dans l'histoire des arts. Deux artistes de premier plan, chacun dans leur domaine respectif, appelés tous deux le patron par leurs admirateurs et disciples et unis par un véritable lien de filiation. Le premier était un immense peintre, un des chefs de file de l'impressionnisme, Pierre-Auguste Renoir. Le second, tout aussi immense cinéaste, fut comme son père, incompris du public et de la presse en son temps, mais vénéré plus tard par une génération de critiques, futurs cinéastes de la nouvelle vague, qui allaient faire de lui un modèle, voire un mythe. Il s'agit bien sûr de Jean Renoir. Quelques années avant sa mort, Renoir fils écrira dans ses mémoires « Ma vie et mes films ». « J'ai passé ma vie à tenter de déterminer l'influence de mon père sur moi ». Cette influence, ou plutôt ses points de contact, ses préoccupations partagées, cette commune sensibilité qu'avait relevé André Bazin, une exposition avait déjà tenté de la déterminer. C'était en 2005 pour inaugurer les nouveaux locaux de la Cinémathèque française rue de Bercy, comme l'avait récemment raconté Serge Toubiana dans le plan large que nous avions consacré à Claude Berry. 13 ans plus tard, c'est au tour du musée d'Orsay de remettre la question sur le tapis avec une très belle exposition « Renoir, père et fils ». Dans la vie, c'est comme dans l'art, tout est affaire de comparaison, avait encore écrit Jean Renoir. C'est ce qui est en jeu ici, moins une enquête sur des influences qu'un montage riche de sens et proprement cinématographique entre les œuvres du père et du fils. Visite guidée de l'exposition Renoir, père et fils, aujourd'hui dans Plan Large, avec sa co-commissaire Sylvie Patry, directrice de la conservation et des collections du musée d'Orsay, et Bernard Eisenschitz, critique et historien du cinéma et renoirien de premier ordre, tout comme Charlotte Garçon, qui en fin d'émission nous parlera d'un autre JR, Jacques Rivette, dont les écrits critiques sont enfin rassemblés dans un livre.
On regarde un peu la tête 6 ans.
Mais pour l'heure, au musée d'Orsay, il est temps de prendre un bon bol d'air et de partir à la campagne. Nous sommes donc dans la première salle de cette exposition consacrée au Renoir, Renoir père et fils, au musée d'Orsay. Il y avait déjà eu, Sylvie Patry, une exposition à la Cinémathèque française qui interrogeait les relations entre les deux artistes, père et fils. C'était en 2005. Pourquoi est-ce que vous a semblé nécessaire, 13 ans après, de revenir sur le sujet, à commencer par Philadelphie, puisque cette exposition a déjà eu une première existence, l'exposition du musée d'Orsay, hein, pas celle de la Cinémathèque française, à la Barnes Foundation, où vous avez exercé vous-même vos talents, donc vous connaissiez très bien la collection Renoir Père qu'il y avait à Philadelphie.
Donc l'exposition qui avait eu lieu à la Cinémathèque française en 2005, qui était d'ailleurs co-organisée avec le musée d'Orsay à l'occasion de l'installation de la Cinémathèque rue de Bercy, elle avait pour sujet les Renoirs en général. Donc effectivement, il y avait un accent très très fort porté sur Pierre-Auguste le peintre et sur Jean, l'un de ses trois fils, mais l'exposition 2005 parlait également de la personnalité de Pierre et de l'ensemble de la famille jusqu'à aujourd'hui. Ici, on est véritablement uniquement sur la relation entre le père et le fils. Et cette exposition, comme vous l'avez signalé, elle est née aux États-Unis, elle est née à Philadelphie. Donc l'approche est assez différente. Pourquoi Philadelphie? Pourquoi la Fondation Barnes comme première étape de cette exposition? Parce que, comme vous l'avez signalé, la Fondation Barnes, c'est une collection très importante des œuvres de Pierre-Auguste Renoir, la plus importante au monde, avec 180 œuvres. Mais c'est aussi, et ça on le sait moins, la plus importante collection au monde connue de céramique de Jean Renoir, qui avant de faire du cinéma a été potier. Donc il y avait cette incitation, si vous voulez, liée à une institution, à à une collection. Et donc du coup, moi j'ai souhaité qu'on reprenne la question d'un point de vue un peu différent. Déjà en s'interrogeant sur le contact réel que Jean a pu avoir avec son père. Donc des sujets qui intéressent assez peu les historiens du cinéma et qui intéressent à la marge les historiens de l'art, c'est-à-dire qu'est-ce que Jean a vu de son père, quelle a été vraiment sa connaissance de l'œuvre de son père, comment... Qu'est-ce qu'il a fait de son héritage? Quand Pierre-Auguste Renoir est mort en 1919, il a hérité de centaines de tableaux, comme ses frères. Qu'est-ce qu'il a défendu? Qu'est-ce qu'il a vendu? Qu'est-ce qu'il a racheté? Et puis ensuite, s'interroger sur de possibles points de contact entre les deux œuvres, mais sans jamais suggérer, j'espère que c'est clair, sans jamais suggérer que un film peut être une transposition d'un tableau, et surtout pas un film de Jean Renoir, une transposition d'un tableau de Pierre-Auguste.
Le catalogue de l'exposition, d'ailleurs, le dit très clairement dès le départ. Nous avons deux textes qui nous expliquent que le cinéma, ce n'est pas la peinture, évidemment, et qu'il ne faut pas chercher forcément de l'influence, et que c'est le point de contact, effectivement, qui est le plus intéressant. Et nous entrons dans cette exposition par un point de contact, là, très frappant. Bernard Eisenschitz, nous avons face à face deux balançoires. Une balançoire qui est celle... peinte par Renoir, et puis en face nous avons celle de partie de campagne, et ce film qui est projeté d'un côté est entouré de peintures du père. Est-ce que dès ce moment-là, Bernard Eisenschitz, vous avez le sentiment, voilà, qu'on est dans une rencontre possible, ou en tout cas que par cet effet de montage, puisqu'on a presque un effet de montage cinématographique entre des peintures et des images mouvantes, quelque chose se dit, pas tant d'une influence, donc, mais d'une sensibilité commune. Je crois que c'est Bazin qui disait ça à propos de Renoir fils par rapport à Renoir père.
Oui, il y a un montage, mais je crois que la force de l'exposition d'un bout à l'autre, c'est justement de relativiser cette idée d'influence linéaire, cette idée d'un parcours qui serait totalement dans l'imitation ou dans la réponse cinématographique à ce que faisait Renoir. Je pense que la relation Renoir à son père, c'est pas du tout de cet ordre-là. Alors, il a le décor, l'atmosphère, le milieu de plusieurs de ses films qu'on voit ici en extrait correspondent à des sujets de Renoir père. Mais en dehors de ça, Renoir est un cinéaste qui a un parcours tout à fait indépendant, qui se crée son Renoir, et qui répond en tête de sa biographie, de son livre sur son père, à l'objection: ce n'est pas Renoir que vous nous décrivez là, c'est votre vision de Renoir. Et il répond tout à fait: l'histoire est un genre essentiellement subjectif. Il y a quelque chose dans le sentiment de Renoir, après écrivant beaucoup plus tard sur son père. Il parle de l'influence de son père, évidemment le livre est consacré à ça. Il cite son père, alors citation inventée, réinventée, on ne sait pas, la fonction des parents est de rassembler des forces mystérieuses, pas seulement la force des êtres, mais celle des forêts, de la mer, de la vie dure ou facile, écrit-il. Bon, on n'est pas du tout dans l'idée d'éducation, dans l'idée d'enseignement, de ce que son père aurait pu lui apporter, puisqu'on sait qu'il a commencé, il l'écrit aussi en tête de son livre, il a commencé à connaître, à penser à son père à la fin, à la toute fin de la vie de celui-ci, quand ils étaient tous les deux handicapés.
Alors, monsieur Henri, ça vous dit plus rien, le fromage de cochon?
J'ai mis l'omelette. Donc, vous avez vu les Parisiens, la femme est rude, moi on vient.
Vous voulez dire la fille?
Oh, la petite, j'ai à peine regardé. Elle est trop maigre.
Alors, c'est la mère qui vous intéresse?
Bah, bien sûr, vous avez vu ce morceau? Ah, là là, on peut dire qu'il y a de quoi s'occuper, hein. Puis alors, avec ça, bien mise, hein. La finesse, la distinction.
Vous me mettez l'eau à la bouche.
Écoutez, monsieur Henri, moi, j'ai pas de conseils à vous donner. Et puis, j'ai pas le temps. Mais si j'étais à votre place, je sais pas ce que je ferais.
Attendez-moi ça, un vote.
Alors, ce que nous voyons de Partie de campagne, le film de Renoir ici, ce sont surtout ce que Alain Fleischer a fait des rushs du film. Il en a monté un second Partie de campagne. Et ce qu'on voit, c'est que Renoir fait répéter des dialogues qui sont écrits. Donc, on n'a pas le Renoir censé tout improviser, de même que dans la peinture impressionniste. Et même quand Renoir perd, cesse d'être impressionniste, ce sentiment que tout est facile, tout est fait sur le motif, alors qu'il y a énormément de préparation dans les deux cas. C'est ça aussi que vous vouliez montrer dans cette salle, Sylvie Patry ?
Oui, c'est ce qu'on voulait montrer. Quand tout à l'heure nous parlions de la différence entre 2005 et aujourd'hui, c'est vrai que on a réuni des peintures, on a réuni des extraits de films. Donc on a effectivement des points de rencontre très, très immédiats qu'il est bon de rappeler et que l'exposition veut aussi rappeler. On a des vues de Sisley, des paysages de Sisley au bord du Loing, l'endroit où est tournée Partie de campagne. Alors évidemment, je sais qu'il y a le fruit des circonstances, mais c'est quand même assez frappant de voir que Jean quand même trouve toujours le moyen de se retrouver là où son père a travaillé. Outre le motif de la balançoire, il y a aussi un très beau tableau du Getty Museum à Los Angeles qui nous est prêté à titre exceptionnel, où l'on voit un couple entrer dans un sous-bois, image et moment que l'on retrouve de façon évidemment très différente dans Partie de campagne. Donc si on a voulu montrer à la fois le film lui-même et les rushs qui sont absolument magnifiques dont vous parlez, c'est parce que souvent, lorsqu'on parle du rapprochement entre les deux artistes, tout le monde a en tête la balançoire et Partie de campagne, et tout le monde donc conclut, voyez, c'est du cinéma impressionniste, c'est l'impressionnisme, c'est improvisé, c'est libre, etc. C'est très libre d'apparence, et je parlerai plutôt d'une allure d'improvisation, et c'est pour ça qu'on a voulu montrer les rushs, puisque à mon sens, bon, évidemment ça c'est le fruit des recherches récentes et c'est ce qui justifie aussi qu'on revienne sur ce sujet après 2005. Maintenant on sait bien que Jean Renoir n'improvisait pas, qu'il était très scrupuleux avec son scénario et c'est très fascinant de le voir faire répéter jusqu'à obtenir exactement l'effet qu'il souhaite. Et on a cette commune sensibilité aussi, ce goût de l'extérieur, du plein air, de la nature en mouvement, cette esthétique du naturel qui est une construction mais qui est réelle à mon avis dans les tableaux qui sont montrés et dans les extraits de films.
Alors nous allons passer à la salle suivante, on pourrait presque dire la cellule suivante, parce que cette exposition est composée en petits blocs, comme ça, un peu autonomes. Parfois il faut retourner dans le musée pour aller dans la salle suivante, et ça vous a beaucoup plu, Bernard Eisenschitz, vous trouvez que c'est très renoirien, alors à chaque fois il faudra dire renoirien fils, ou joannique, comme dira quelqu'un dans votre catalogue, pour éviter la confusion entre Renoir père et Renoir fils.
Absolument, mais la dimension de cellule autonome est justement une des caractéristiques de Renoir cinéaste, qui disait aussi qu'il traitait chaque séquence comme un film. Bon, il se disait raconteur d'histoire avant tout. Sur la fin de sa vie, une interview américaine dans laquelle il dit « Je ne suis pas vraiment un metteur en scène, je ne suis pas vraiment un directeur d'acteur, je ne suis pas vraiment un romancier, je suis un conteur d'histoire ». Mais pour raconter ses histoires, il aimait des séquences fermées, ce qui va évidemment à l'encontre du grand flux aquatique qu'on imaginait, en effet, à la fois sur les peintres impressionnistes et sur ce Renoir bon enfant, fluide. Et dans Renoir, il y a évidemment l'idée des boîtes, le petit théâtre, qui est presque partout présent. Si on pense à la scène de la balançoire, la scène de la balançoire existe avant tout parce que cette balançoire est regardée, j'allais dire matée. Elle est regardée par deux voyeurs à travers une fenêtre, décor qui a été construit, comme on le voit dans une très belle photo du catalogue, comme c'est expliqué d'ailleurs dans le catalogue, cette idée des cloisons, des choses qui se passent dans des endroits fermés, qui sont généralement fermés de manière carrée.
Dans cette seconde cellule, dans ce second cadrage sur les points de contact entre Renoir père et Renoir fils, nous avons effectivement la découverte, alors je n'avais jamais vu ça, je dois vous avouer, des céramiques faites par Jean Renoir. Nous avons un portrait de, alors c'est pas un portrait de signé Renoir père, hein, c'est Albert André, c'est ça qui fait cette peinture, où on voit Jean Renoir peignant ses céramiques. Et Renoir faisait un rapport entre son activité de céramiste et les films qu'il fera plus tard. Enfin, on sait qu'avec Renoir, il réarrange toujours un peu ce qui lui arrivait, mais là, la céramique est comme une image de ce qu'il fera ensuite en cinéma.
Oui, c'est vrai qu'il fera effectivement un parallèle entre la céramique et le cinéma, en disant que chacune des deux formes d'expression artistique font une place au hasard et que le hasard a un rôle créateur à la fois lorsque l'on confectionne un vase ou un pot comme on en voit ici et puis un film avec une part d'inattendu et cette idée qui me semble assez renoirienne qu'en fait il faut s'adapter, il faut savoir aussi la création surgit de l'adaptation au monde extérieur plutôt que dans le contrôle total. Mais c'est vrai que cette activité de potier, de céramiste était assez peu connue. Elle l'a occupé, on ne sait pas exactement précisément quand, enfin entre 1919 et 1923-24, on n'a pas de certitude absolue. Donc le portrait d'Albert André, qui était un peintre très proche de Pierre-Auguste Renoir, qui était considéré comme Jean comme un second père, il n'a pas pu être de Pierre-Auguste Renoir, et pour cause, puisque quand Pierre-Auguste meurt, Jean n'a absolument trouvé aucune voie. Je veux dire, il n'est ni céramiste ni cinéaste, c'est plutôt un jeune homme un viveur qui aurait rêvé d'accomplir une carrière militaire et qui ne peut pas parce qu'il a été sévèrement blessé pendant la Première Guerre mondiale.
T'es encore en train de faire l'idiot avec ta peinture. Désolé,
tu seras venu, ma chérie.
J'ai pas le temps de m'amuser, moi. J'allais chercher les revenus de mes obligations.
De nos obligations.
De mes obligations. Ici, tu n'as rien à toi.
Nous continuons notre travelling de cellule en cellule, de cadre en cadre, parce que c'est quand même pas évident d'être le fils d'un peintre aussi connu que Renoir père, non seulement parce qu'il va falloir faire quelque chose de cet héritage et de toutes ces toiles qu'on reçoit à sa mort, et en fait Renoir fils va s'en débarrasser assez vite de ces toiles, il va les vendre pour faire du cinéma, pour financer ses films, mais il y a un portrait qu'il va garder toute sa vie, et plusieurs photos ici attestent qu'il l'avait toujours chez lui, et notamment quand il était à Los Angeles. Vous pouvez nous le décrire? Tiens, on va demander à Bernard Eisenstein de nous décrire ce tableau.
C'est Jean chasseur avec un chien, et il a 12-15 ans, je ne sais pas. Il tient un fusil, la chasse évidemment, et puis l'idée du chasseur, du piégeur, de l'homme qui attrape ou qui abat, l'idée du sang peut-être.
Et ça rappellera peut-être un peu la règle du jeu aussi, hein, où il y a des scènes comme ça de chasse. Et nous sommes entourés ici de portraits de Jean Renoir par son père, mais principalement, il est un peu plus grand là en chasseur, mais principalement de Jean Renoir enfant, avec parfois de longues boucles blondes qu'adorait peindre son père. Et en fait, les relations entre Jean Renoir enfant et son père sont très limitées. On est dans une famille bourgeoise, on ne voit le père que peu, mais on le voit travailler, en tout cas enfant, peut-être pas de manière très agréable pour Jean.
Oui, alors là, les témoignages sont un petit peu contradictoires, effectivement. Donc on a une série de portraits qui ont été réalisés entre 1895, Jean est né en 1894, et 1910. Donc le portrait en chasseur, c'est le dernier portrait de la série. Et Jean a posé pour, on estime, une soixantaine de tableaux et de pastels. Donc il a laissé des souvenirs assez divergents de ces séances de pose. Soit il insistait sur le désagrément, du fait qu'il était, au lieu de jouer, il était obligé de poser pour son père. Il a aussi beaucoup raconté comment son père, justement, pour l'encourager à être patient, inventer des jeux. Donc on le voit beaucoup jouer, on le voit avec sa nounou, Gabriel Renard, qui va jouer un rôle très important dans sa vie et peut-être aussi dans son œuvre d'une certaine façon. Donc ce qui est intéressant, c'est que ces portraits, pour certains, sont des portraits qui ont été vendus du vivant de Jean, du vivant de Pierre-Auguste Renoir. Donc on est dans on a une forme d'intimité familiale, mais c'était aussi pour certains des portraits qui étaient destinés au marché. Et donc le tableau que Jean a gardé toute sa vie, c'est son grand portrait en chasseur, qui est le plus ambitieux de la série, si je puis dire, et qui va vraiment l'accompagner toute sa vie. Ce qu'on a voulu montrer aussi dans l'exposition, c'est qu'on a voulu montrer ces tableaux, mais on a aussi montré des reportages dans Paris Match ou dans des journaux grand public, où Jean pose avec ses portraits. Et comme l'a dit Bernard Eisenstein au début de l'émission, il y a vraiment un moment où ça a été difficile d'être le fils d'eux. Et à partir du milieu des années 50, il joue vraiment sur cette identité de fils d'eux. Et il n'hésite pas à poser avec ses portraits, notamment. Et c'est aussi le moment où il va rédiger le livre sur son père, auquel on consacre également une vitrine dans cette salle.
Parce que le rapport de Renoir à son père change avec les années. On imagine bien que, comme je le disais, difficile d'être le fils d'un grand artiste. Donc, il y a un moment, il va l'oublier un peu. Mais c'est intéressant que cette exposition ait d'abord eu lieu aux États-Unis. C'est en arrivant à Los Angeles qu'il va réaliser que le Renoir, notamment le Renoir tardif, qui n'est pas très bien vu en France, hein, le fameux peintre des boîtes de chocolat, est en fait très aimé aux États-Unis et que lui peut avoir aussi une surface sociale en étant le fils de ce grand peintre.
Oui, c'est vrai que quand il arrive à Hollywood, son père, il est quand même connu comme cinéaste. C'est le cinéaste de La Grande Illusion. Je pense que c'est vraiment le film qui l'a rendu le plus célèbre en dehors de la France. Mais il se plonge dans un univers où l'œuvre de son père est collectionnée. Il est d'ailleurs très ami avec Charlton, qui lui-même avait des tableaux de Renoir et qui connaissait très bien le Dr. Barnes. Donc, effectivement, être le fils de son père, c'est pas mal aussi. Il y a aussi quand même l'aspect, peut-être, c'est peut-être un point de vue trop psychologique, mais la nostalgie, enfin, pour avoir lu, comme beaucoup, les lettres que Jean écrit quand il arrive aux États-Unis, il y a quand même vraiment, pour lui, c'est au départ, quand il arrive aux États-Unis, c'est l'affaire de quelques mois, le temps que les choses se règlent en France. Et en aucun cas, il n'imagine, quand il arrive aux États-Unis, qu'il va y passer le reste de sa vie et qu'il va y mourir. Et donc, du coup, au départ aussi, il y a, je pense... forme de nostalgie. Donc cultiver le souvenir de son père, c'est aussi se rattacher à la France et à ce qu'il a perdu en quittant la France.
Et puis l'autre élément, évidemment, c'est que Renoir a pensé qu'il ne resterait pas, et a pensé que sa carrière cinématographique allait se terminer très très vite quand il a découvert le mode de production de Hollywood qui ne lui convenait pas du tout, ce qui ne l'a pas empêché de faire 5 films, certains parmi les plus beaux qu'il ait fait.
Why, Todd? I had to do it. Those paintings meant everything to me. But they became an obsession. They had to be destroyed. Now I'm free.
Alors, nouvelle salle. Nous avons fait un petit détour par l'intérieur du musée pour arriver dans celle-ci. Cette salle, c'est celle consacrée à un modèle en commun, une certaine André Oechling. Alors, André Oechling n'est connu que des amateurs de peinture et Catherine Oechling n'est connue que des amateurs de cinéma. Quel est le point de jonction entre les deux, Sylvie Patry?
Bien, c'est la même femme, et c'est ce qui est quand même assez fascinant dans cette relation entre les deux artistes, c'est que donc André Oechling, que l'on encore plus connu sous le surnom de Dédé, est l'un des derniers modèles de Pierre-Auguste Renoir. Elle commence à poser pour lui, on ne sait pas exactement quand, mais disons 1916-1917, et elle va lui inspirer certains de ses nus les plus importants. Elle a une chevelure dans les tableaux du père, elle a une chevelure rousse, elle a des formes généreuses, et donc elle est indissociable de cette toute dernière manière, si je puis dire, de Pierre-Auguste Renoir. Jean la rencontre à ce moment-là et il l'épouse juste après la mort de son père en 1920. Ils font de la céramique ensemble, d'ailleurs, soit dit au passage. Mais le plus important, même si c'est peut-être pas tout à fait vrai, je sais pas ce qu'en pense Bernard Eisenfist, c'est que Jean Renoir dira toujours qu'il est devenu cinéaste, non pas parce qu'il le voulait vraiment, mais parce qu'il voulait faire de sa femme une vedette de cinéma qui, elle, adorait le cinéma. Et donc c'est assez fascinant de voir que le dernier modèle du père devient aussi le premier modèle, la première actrice, plus exactement du fils. Et donc on a voulu insister sur la personnalité de Catherine Oechling au cinéma comme point de jonction entre les deux œuvres, et aussi parce que, et Jean le dira d'ailleurs lui-même plus tard, Son importance a été un petit peu minorée ensuite dans l'œuvre du fils, et pourtant elle lui a inspiré des scènes qui sont assez fascinantes, dont on montre quelques exemples dans l'exposition. On a aussi montré un portrait de Catherine Essling par Derain, qui date de 1924, puisque, et c'était évoqué également dans une des salles précédentes de l'exposition, Jean Renoir, dans ce dialogue avec son père, il y a d'autres artistes qui entrent en jeu, et des artistes de son temps, Matisse, Dufy, mais aussi Derain, dont il était proche dans les années 20.
Et André Derain, qu'on voit jouer dans La fille de l'eau, qui joue un aubergiste atteint d'un mal de dents, avec un jeu un peu exagéré, on dira. Il en fait beaucoup. Catherine Essling symbolise la première partie de l'œuvre de Renoir, fils, qui n'est pas la plus renoirienne telle qu'on la connaît. C'est un cinéma qui est très influencé par Stroheim, influencé, j'imagine, aussi par le cinéma allemand de l'époque, par l'expressionnisme. Et comment est-ce que vous caractériseriez le jeu de Catherine Essling chez Renoir, par exemple, et qu'est-ce qu'il en fait, Bernard Exarchitz?
Pas la période la plus renoirienne, est-ce bien sûr, comme aimait à dire Renoir. Pour moi, c'est un peu une révélation, cette comparaison, cette pièce. La découverte et la découverte du modèle en commun, bon, ce qu'on connaissait d'un point de vue biographique, et la découverte de la véritable séparation entre les deux. Entre André Heuchling et Catherine Essling, elle est méconnaissable. La photo qu'on voit d'elle avec Pierre Auguste, elle est méconnaissable. Il est impossible de la reconnaître dans les films. Et en revoyant les quatre grands films de Renoir avec elle, on découvre d'abord une manière de faire les films très importante. Bon, Renoir a-t-il voulu faire des films pour montrer sa femme? C'est possible, c'est peut-être une des raisons, pas la seule, mais en tout cas c'est possible. Ce qui est certain, c'est qu'il n'a pas du tout abordé le cinéma comme on abordait le cinéma à l'époque, et pendant toutes ces années, jusqu'à la fin des années 20, jusqu'à la fin du cinéma muet, et jusqu'à la fin de sa collaboration avec Catherine Essling, Renoir n'a pas voulu faire des films de contrôle total, des films de démiurge, comme en faisaient à l'époque les grands cinéastes, Fritz Lang, Murnau, Dreyer, et même John Ford. Les grands cinéastes créaient un univers total. Renoir crée des petites histoires, il raconte vraiment des histoires, et il en fait tout à fait autre chose. Il n'essaye pas d'imposer, il n'y a rien d'imposant dans ses films. Il y a quelque chose, chaque fois d'abord un parcours tout à fait différent. Alors tantôt la fantaisie totale de type sur un air de Charleston, tantôt une promenade plus ou moins poétique, La fille de l'eau, tantôt le conte de fées d'Andersen avec La petite marchande d'allumettes, qui est une des choses, à mon avis, qui est un point très 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 important dans son œuvre, même si le film est un film court qui fait une demi-heure. Et Essling là-dedans joue, j'ai oublié évidemment Nana, et Essling là-dedans joue de manière très très diversifiée d'un film à l'autre. Quelqu'un a dit, alors c'est pas dans les mémoires de Renoir, quelqu'un a dit que son obsession c'était Chaplin, et effectivement on voit ce besoin d'expression de tout le corps, ce besoin de trouver un mouvement cinématographique, des expressions qui peuvent paraître un peu figées, un peu systématiques dans Nana, qui peuvent paraître assez obscènes, à la limite de l'obscène dans Charleston, certainement, beaucoup plus proches de la tendresse de type Lillian Gish chez Griffiths dans La petite marchande d'allumettes. Et toujours est-il qu'elle est extrêmement, extrêmement mobile, différente. Et là-dessus, il y a deux essais sur elle dans le catalogue, dans l'essai de Janet Bergstrom en particulier. J'ai vraiment découvert des choses sur ce qui a pu être, ce qui a pu peser dans le choix de Renoir, et peut-être que là on trouve un écho du père dans cette idée de ne pas faire un cinéma de démiurge, un cinéma de contrôle total, ce qui évidemment est à l'opposé de dire un cinéma on part dans la nature, on tourne n'importe quoi, qu'on a toujours raconté pour ridiculiser et Renoir et ses admirateurs. Mais là, la relation avec Essling, non seulement c'est pas négligeable, mais je pense que c'est très très renoirien, que ça dirige vers d'autres choses que Renoir a évidemment modifié, adapté, transformé, aussi bien dans sa liberté totale française avant-guerre que dans les compromis indispensables hollywoodiens pendant la guerre.
T'as déjà dansé?
Non, mais j'étais première en gymnastique. Allez, Oscar, vas-y.
nouvelle salle de cette exposition Renoir, père et fils au musée d'Orsay. Nous sommes peut-être à ce qui a semblé être le point de contact le plus évident entre Renoir, père et fils. C'est une salle qui s'intéresse à la fois à French Cancan, on parlait de comédie musicale la semaine dernière, et à Elena et les hommes. Pas, tout simplement parce que nous sommes dans une période, la fin du 19e siècle, qui a été peinte par Renoir père, parce que nous sommes à Paris, point important pour Renoir père, et que c'est peut-être là que Renoir fils a dit « oui, je me suis inspiré le plus de certaines peintures de mon père, du Moulin de la Galette, des choses comme ça ». Alors évidemment, on se rend compte dans cette salle que c'est beaucoup plus compliqué, qu'il n'y a pas que Renoir père qui est en jeu pour ces deux films, Sylvie Patry.
Et donc c'est salle est consacrée à un moment peut-être important de cette relation, quand au milieu des années 50, Jean Renoir revient tourner en France, et donc il tourne Elena et les hommes et French Cancan. French Cancan se situe dans une reconstitution du Paris de son enfance, donc Montmartre, au tournant du siècle. Et ce qu'on a voulu montrer, c'est effectivement pas tant la reprise de motifs entre, par exemple, le Moulin de la Galette et certaines scènes, soit de French Cancan, soit d'Elena et les hommes, mais plutôt de montrer la culture visuelle à laquelle Jean Renoir fait appel pour cette reconstitution avec des couleurs très vives, enfin très très différentes d'ailleurs de la palette de son père, de ce Montmartre très très délibérément artificiel. Et donc on a mis à l'honneur à la fois Chéret, à la fois Toulouse-Lautrec. Chéret, dont on retrouve des citations littérales, là pour le coup il filme les affiches de Chéret, donc on voulait vraiment mettre en évidence cette dimension visuelle du film. Et puis Toulouse-Lautrec, dont on retrouve l'énergie de certaines affiches dans des scènes de French Cancan, mais aussi une description aussi de l'univers féminin de Montmartre, ces femmes au café, ou qui sont assez différentes de l'œuvre du père. Mais il n'en reste pas moins qu'il me semble que c'est vraiment une sorte de réflexion de Jean sur ce qui est à la source de son identité, enfin ses relations, ce Paris peint par son père, où a vécu son père et où lui-même a grandi.
C'est une idée. Je vais lui faire faire des heures supplémentaires. Comprends pas.
En même temps, Bernard Eisenschitz, French Cancan notamment, c'est un film sur le théâtre, sur le spectacle. Ce n'est pas un film sur la peinture. On sait que Renoir voulait faire un film sur Van Gogh qu'il n'a jamais fait. On sait qu'il a empêché tout film sur son père de son vivant. Il faudra attendre le Renoir de Gilles Bourdos pour montrer un jeune Jean Renoir aux côtés de son père vieillissant. Est-ce qu'il veut faire de la peinture malgré tout quand il parle de théâtre, Jean Renoir?
Je suis d'accord, je pense qu'il fait il fait du théâtre, du divertissement. Il y a une envie de faire des choses légères. Ça, c'est peut-être la période la moins cruelle de son œuvre. Disons, la cruauté est très, très présente chez Jean Renoir. Ça va revenir avec le testament du docteur Cordelier. Mais, c'est la période où, en effet, c'est peut-être le décor. C'est important. C'est très important, ce point de contact avec son père. Et en même temps, c'est curieux parce que les trois extraits que nous voyons là, nous voyons abandonner, tourner le dos, évidemment pas abandonner, mais tourner le dos à ce qui a été quand même le grand apport de l'impressionnisme, dont on peut dire qu'il l'a amené au cinéma, qui est la lumière naturelle. Il y a de lumière naturelle ni dans Elena, ni dans French Cancan. Et il y a ce film américain extraordinaire qui est Le journal d'une femme de chambre, qui a, je crois que c'est Bazin qui le disait, mais sinon tout le monde peut le dire, une lumière d'aquarium qui est entièrement tournée en décor. Alors évidemment, c'est le fruit des circonstances. On a beau dire, Renoir ne faisait que ce que le producteur lui imposait, donc il a dû tourner en décor. N'empêche que ce qu'il a fait avec ce décor, c'est vraiment cette lumière d'aquarium. Le ciel est noir, le ciel est plombé complètement, alors que la chose extraordinaire, les premières fois que j'ai vu des films, les films anciens de Renoir et d'Ulm, c'était cette lumière qu'on voyait dans Boudu, dans Tony, dans des endroits très très différents. Bon, ensuite, évidemment, la règle du jeu, où c'est la lumière d'orage, la lumière de quelque chose de dramatique qui va arriver, mais Ça disparaît. On va voir aussi cette conquête qui a été la découverte de l'Inde et du fleuve. Même si on peut dire le fleuve est en grande partie tourné en décor, les décors se reconstituent, ça n'empêche que la lumière est là.
On va passer un peu vite sur la salle intermédiaire, qui sont les rapports de Jean Renoir avec la littérature du 19e siècle, Flaubert, Zola, Mirbeau. Zola qui avait des rapports très complexes avec Renoir père, puisqu'il l'a beaucoup défendu, et puis il n'a pas trop aimé sa période tardive. Enfin, il disait qu'il n'y comprenait pas grand-chose. Mais nous avons cette salle suivante, qui est justement un moment où Renoir fils va s'emparer, va retourner même dans les lieux de son enfance, à Cagnes, près de Cagnes-sur-Mer, dans ce domaine des Colettes, là où Renoir père a fini sa vie, et va s'emparer là des mêmes lieux, de la même nature et aussi de la même lumière, en tournant Le Déjeuner sur l'herbe. Et là, vous mettez, un peu dans une salle symétrique à celle de la balançoire au début, des scènes de nature filmées par Renoir, et la même nature peinte par Renoir, le père. Sylvie Patrine.
Oui, là, on est vraiment dans une identité de lieu parfaite. Effectivement, Jean tourne dans ce domaine des Colettes, donc à Cagnes, à quelques kilomètres de Nice, qui avait émerveillé son père par plusieurs aspects, en particulier donc par la lumière du midi, mais aussi par ce jardin, par ce terrain qui était planté d'oliviers centenaires. Et on retrouve, et lui-même ensuite retransforme au cinéma, reprend ses motifs et les célèbre dans ce film qui est tourné un an avant que cette propriété qui était encore dans la famille ne devienne le musée Renoir à Cagnes-sur-Mer. Donc c'est assez intéressant de voir le fils tourner une dernière fois, en fait planter sa caméra là où le père avait planté son chevalet, juste avant que le lieu soit muséifié et ne soit plus le lieu de la famille Renoir, mais un musée consacré au père. Donc à mon sens, on retrouve là pour le coup ce goût pour le travail en extérieur, une palette qui est assez proche, et je crois là vraiment délibérément proche. Jean Renoir a regardé les œuvres tardives, donc celles avec lesquelles il a vraiment vécu et grandi de son père, non pas pour transposer à nouveau la peinture au cinéma, mais pour peut-être recréer une impression, en fait que lui-même avait éprouvé à la fois au contact de cette nature et au contact de la peinture de son père. Et on retrouve également des types féminins et assez communs aux deux artistes. Et puis une réflexion très ambiguë sur le progrès, que Jean remet beaucoup en scène et sur lequel il s'est beaucoup exprimé.
Oui, parce que le film avait été vu comme réactionnaire à l'époque, Bernard Eisenschitz, ce film Le Déjeuner sur l'herbe, qui était une manière de critiquer le progrès. C'est très étonnant de voir un film sur la fécondation artificielle à l'époque et sur ces savants, sorte de technocrates qui voudraient contrôler le monde et à qui Jean Renoir va opposer des forces dionysiaques comme ça, symbolisées par cette sorte de dieu Pan accompagné de son bouc. Qui déclenche la tempête avec sa flûte et qui rend les hommes et les femmes fous de désir.
Oui, on avait déjà ça dans Boudu, on a un peu ça aussi à la fin d'Héléna, mais en même temps, c'est là aussi, il retrouve un peu la philosophie qu'il attribue à son père, qui est probablement en très grande partie la philosophie de son père. Bon, le film a été profondément méprisé par la critique à l'époque. Il faut bien dire que les Français ont très longtemps détesté Renoir et méprisé Renoir comme cinéaste. Pendant très longtemps, on l'a préféré Carnet. Il a fallu attendre, c'est peut-être depuis 20 ans qu'on parle de La Règle du jeu comme du chef-d'œuvre du cinéma français. Et à propos de Héléna, Le Déjeuner sur l'herbe et Cordelier, on a vraiment parlé de gâtisme. De gâtisme évidemment réactionnaire. Il était question d'un général putschiste dans Héléna. Il était question de dire la science dans Le Déjeuner sur l'herbe, et de dire que Cordelier, c'était pas exactement la même chose, naturellement. Mais Le Déjeuner sur l'herbe est un film qu'il a fallu vraiment redécouvrir dans les dernières années comme un des films, peut-être un film qui fait diptyque avec Cordelier, justement, la lumière contre l'enfermement, l'expérimentation, la science noire inspirée de Stevenson, inspirée de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Je pense que les deux films font diptyque d'une certaine manière et sont des films qu'on revoit vraiment toujours avec le plus grand plaisir.
Nous voici donc devant le fleuve. Je dis devant le fleuve parce que nous entrons dans cette salle face à des images en mouvement de ce film. Pourquoi est-ce que vous avez voulu terminer cette exposition par le fleuve ? Est-ce que c'est peut-être le point de contact ultime, le plus étonnant a priori, puisque autant que je sache, Renoir Père n'est jamais allé peindre l'Inde, mais c'est le motif de l'eau, c'est le motif du ruisseau, c'est le motif du bouchon dans le ruisseau, Sylvie Patry ?
Jean Renoir a parfois dit que ses relations avec son père étaient parfois les plus présentes au moment où elles étaient le moins visibles. Alors je ne sais pas si c'est le cas pour le fleuve, mais en tout cas notre idée avec Mathieu Orléans, qui est le co-commissaire de l'exposition, c'était que c'était vraiment un film où notamment le travail sur la couleur pouvait être mis en relation, c'est son premier film en Technicolor, pouvait être mis en relation avec la palette de l'œuvre tardive du père justement des dernières années, sans encore une fois parler d'influence, mais ce goût pour des couleurs incandescentes, très rouges, me semblait correspondre aussi au travail sur de Renoir dans ses de Renoir Père dans les dernières années. Et puis effectivement, même si c'est une adaptation, il me semble qu'il y a un certain nombre de références autobiographiques et comme un retour sur lui-même, sur son propre parcours, qui me semblait relier ce film à l'ensemble de la réflexion de Jean sur cet héritage. Et c'est pour ça aussi qu'on finit sur un film de 51, mais sans aucun tableau, puisque là, les points de contact ne sont plus autour de lieux, autour de modèles ou de géographie en partage, mais véritablement sur ces questions de couleur, de lumière et de mise en récit de soi, en quelque sorte.
I was caught in an unexpected intrigue. But my adolescent pride would not let me turn back. The magic of the moment absorbed Valerie, too. Only Melanie resisted. For an Indian girl knows better the seriousness of love. When she gives her heart, it is forever. The enchantment began and ended in the grove. Suddenly we were running away from childhood, rushing toward love.
Et sur cette philosophie, c'est le dernier cartel de l'exposition, reprenant Jean Renoir, se rapprochant de la philosophie de l'existence de son père, il faut se laisser aller dans la vie comme un bouchon dans le courant d'un ruisseau. Alors les contempteurs diront, ben voilà, c'est un peu facile, ça leur permet de ne s'engager sur rien. Et d'autres, ils verront une définition presque de l'esthétique d'un Renoir fils, par exemple, et en tout cas de son obsession pour la figure de l'eau qui court de film en film, Bernard Eisenschitz.
Ah ben c'est une très belle définition et de son père et de lui-même, mais enfin qu'il faut pas mal relativiser. Hein. Je pense que le bouchon Jean Renoir savait très bien où il allait et que s'il se laissait porter, il savait dans quelle direction il se laissait porter. Alors en effet, il y a la découverte de la philosophie de l'Inde, il y a la découverte de l'univers de l'Inde, vu d'un point de vue occidental. Il n'a pas fait mine de se transformer en Indien. Il a laissé Satyajit Ray, qui a suivi le tournage, le faire après lui. Mais il y a aussi quelque chose qui est rare dans ces autres films. C'est cette idée de cellule familiale, de famille, c'est cette idée d'enfant qui n'apparaissent pas. Il n'y a pas d'enfant dans les films de Renoir avant le fleuve. Peut-être est-ce qu'il y en a dans les films américains. En tout cas, il n'y a pas d'enfant dans les films français de Renoir avant 39-40. Voilà, donc c'est un film à la fois. C'est un sommet pour moi, c'est une ouverture à la fois sur la couleur, sur la possibilité d'une civilisation autre, curieusement, que le cinéma n'avait pas beaucoup abordé. Il faut bien dire que les cinéastes qui ont eu la curiosité d'autres pays, d'autres lieux, ne se comptent quand même sur les doigts d'une main à cette époque-là. Pourtant, on est dans l'après-guerre, mais c'est précisément dans l'après-guerre que ça peut commencer, cette curiosité. Et puis, il y a la découverte de solutions plastiques ou de solutions dramatiques aussi. Là aussi, une construction en cellule. On est là dans un... Précisément, là, on voit un flashback qui est le récit d'une légende merveilleuse. On a des cellules familiales parallèles qui se croisent. On a plusieurs histoires qui s'entrecroisent. On est tout à fait au sommet de ce que Renoir peut faire de sa liberté totale. Alors, la liberté est totale à l'exception de la couleur qu'il ne peut pas contrôler sur place, puisqu'il faut, il faut envoyer le film au laboratoire Technicolor de Londres où Karl Korff, son vieux collaborateur, le vérifie. Mais on voit que le résultat correspond exactement, ou s'il ne correspond pas, est exactement ce qu'il fallait pour ce film. Voici ici quelques touches de rouge dans un paysage de verdure, par exemple.
La liberté est totale et elle utilise le hasard aussi. On parlait tout à l'heure du Jean Renoir céramiste, on ne sait jamais ce qui va sortir du four. Là, il faut parler aussi de Claude Renoir, qui est le chef opérateur de ce film, neveu de Jean Renoir, donc petit-fils de Renoir peintre, qui, ne voyant pas arriver le matériel attendu pour tourner, va tourner des plans documentaires et la partie documentaire du fleuve vient de là. Vient du hasard aussi, Bernard Eisenstein.
Peut-être. Peut-être. Alors, de toute façon, c'est un hasard très, très bien dirigé. Là aussi, le cinéma, c'est en effet, c'est la lumière, c'est le temps et le hasard. C'était Labarthe qui disait ça, je crois. Et ce hasard, on sait très bien que le tournage des plans de rivière pendant partie de campagne, c'est un hasard qui s'est parfaitement emboîté dans une conception du film qui n'était pas du tout hasardeuse ou définie ou indéfinie.
Ben voilà.
Voilà quoi?
Je te dis au revoir. J'ai un copain du côté de Bercy et toi tu vas de l'autre côté. On t'attend chez toi.
C'est-à-dire, on m'attend sans m'attendre.
Oh, mais on n'a jamais cessé de t'attendre. Au revoir, caporal.
À bientôt.
À bientôt.
L'exposition Renoir, père et fils se prolonge au musée d'Orsay jusqu'au 27 janvier. Exposition accompagnée d'une rétrospective des films de Jean à la Cinémathèque française jusqu'au 6 décembre. Elle, film que vous pouvez aussi, pour 11 d'entre eux, revoir dans de très belles copies restaurées dans le coffret DVD que sort Studio Canal avec notamment ses premiers films muets. Bernard Eisenstein participera le 17 janvier à une table ronde avec un psychanalyste et le chroniqueur de plan large Marcos Uzal, intitulé Au nom du père, Renoir en héritage. Enfin, une bande dessinée se pose également la question, c'est D'un Renoir à l'autre, de Jack Lemonnier et Eddy Simon aux éditions 21 Grammes. Sur le site franceculture.fr, à la page Plan Large, grâce à Pascaline Bonnet, vous trouverez toutes ces informations et d'autres encore, comme la contribution de Charlotte Garçon au hors-série du magazine L'Objet d'Art, consacré à Renoir père et fils. Charlotte Garçon qui consacrera une séance de son excellent ciné-club au Centre des Arts d'Anguien, à Boudu-Sauvé des eaux, ce sera le 28 novembre. Et oui, Charlotte Garçon, même quand elle parle d'un autre cinéaste, elle ne peut s'empêcher, on ne va pas contre sa nature, de toujours en revenir à Jean Renoir.
Nous nous étions arrêtés sur cette idée que la parole est désormais pour le cinéma un fait acquis et irrévocable, dont il faut prendre son parti, et même prendre tous les partis possibles. D'ailleurs, on pourrait ajouter à ce fait du parlant tous les progrès, puisque c'est le mot convenu, que le cinéma a fait depuis pas mal d'années avec la couleur et l'écran large, le progrès tant dans les moyens techniques de prise de vue que dans celui des méthodes de tournage. Est-ce que ces progrès ne sont pas tous, en fin de compte, sous le même signe? Signe qui est un gros, celui d'un réalisme de plus en plus poussé, tout au moins un réalisme des moyens.
Oui, bien sûr, mais c'est l'histoire de tous les arts. Et nous savons que dans l'histoire de tous les arts, l'arrivée au réalisme absolu a coïncidé avec une parfaite décadence.
Jacques Rivette faisait partie des critiques et futurs cinéastes qui ont clamé leur admiration pour Jean Renoir et se sont revendiqués de son cinéma, ce dont je parlais en introduction de cette émission. En 1966, il interrogeait ainsi ce Jean Renoir dans un cinéaste de notre temps intitulé précisément Jean Renoir, le patron. Le 24 mars dernier, nous avions consacré un plan large, vous en étiez, Charlotte Garçon, au cinéaste des jeux de piste, des sociétés secrètes et des complots. Le plus secret et donc sans doute aussi le moins connu des jeunes turcs de la Nouvelle Vague était aussi, et peut-être avant tout, un critique féroce, tranchant, un théoricien fondateur au cahier du cinéma de la modernité cinématographique. Ces textes critiques qu'on devait jusqu'à aujourd'hui rechercher ici et là sont enfin rassemblés en un seul volume chez Post-Édition grâce à Miguel Armas et Luc Chessel. La seule critique véritable d'un film ne peut être qu'un autre film, écrivait Jacques Rivette. Qu'est-ce que, malgré tout, ces écrits nous apprennent du cinéma en général et de Rivette en particulier, Charlotte?
Oui, ce volume était attendu depuis longtemps. En effet, en fait, pas du tout malgré tout, parce qu'on s'y aperçoit du caractère indissociable pour Jacques Rivette de l'écriture critique et de l'écriture de cinéma. C'est-à-dire que ces riches années de critique entre 1950 et 1969, depuis son premier texte dans le bulletin du ciné-club du Quartier Latin, qui était dirigé par celui qui allait s'appeler quelques années plus tard Éric Rohmer, puis dans la Gazette du cinéma qui n'eut que 5 numéros d'existence, et bien sûr par la suite au Cahier du cinéma qu'il va même diriger entre 1963 et 1965, et bien ces textes sur les sorties de films ou sur ces cinéastes de prédilection ne sont pas l'antichambre de sa carrière de cinéaste, mais vraiment une conversation perpétuelle. Donc la phrase que vous avez citée, la seule critique véritable d'un film ne peut être qu'un autre film, il faut aussi l'inverser. En faisant des films, Jacques Rivette a continué à faire de la critique. À travers tous ces textes, Jacques Rivette mène donc une interrogation sur le réalisme. On l'a entendu, c'est pour ça que Renoir revient toujours au détour d'une ligne. Renoir, qui l'avait accepté aussi comme stagiaire sur le tournage de French Cancan en 1954. Renoir, pour qui la nature réaliste du médium cinématographique n'allait pas de soi et impliquait une dialectique permanente avec une forme de théâtralité et de stylisation. Quand un film ne se pose pas la question de cette tension entre représenter le réel et y imprimer un point de vue, alors là, Rivette, connu pour son sourire de chat d'Alice au Pays des Merveilles, sort les crocs.
Non ne potevo più, Nicole.
Andiamo, adesso c'è l'appello.
Lasciami stare, Nicole.
Andiamo. Hai visto? Lavarti ogni mattina non ti è servito a niente.
Lasciami qui, ti prego.
Predicavi tanto bene.
Lasciami qui.
Ti ricordi? Non facevi altro che ripetermelo. Non bisogna ridursi come bestie, dobbiamo difenderci. Te lo ricordi? Invece eccoti qui. Eccoti qui esattamente come tutte le altre.
Via!
Ma è normale. Erano tutte balle, tutte balle. Che fai adesso? Che ti prendi? Dove vai, scema? Dove vai?
Vous avez peut-être reconnu Capo de Gillo Pontecorvo avec Emmanuel Riva, jeune déporté juive devenu Capo pour essayer de survivre dans les camps et qui tombe dans une sorte de déchéance morale et qui vient là de mourir contre un barbelé électrifié. Mais peut-être que vous n'avez pas reconnu cet extrait parce que vous êtes comme moi et comme Serge Danet qui l'a avoué dans un texte de 1992, je n'ai pas vu Capo et en même temps je l'ai vu parce que quelqu'un avec des mots me l'a montré. Ce quelqu'un, c'est Jacques Rivette, ce texte passé de l'abjection, paru en juin 1961 dans les cahiers du cinéma. Je le cite, « L'homme qui décide à ce moment de faire un travelling avant pour recadrer le cadavre en contre-plongée, en prenant soin d'inscrire exactement la main levée dans un angle de son cadrage final, cet homme n'a droit qu'au plus profond mépris. » Un texte resté célèbre parce qu'il formule de manière frappante un débat qui continue d'avoir lieu aujourd'hui sur l'esthétisation de la mort de masse, ou même plus généralement de la violence au cinéma, et sur la nécessité en art d'une morale de la forme. Alors tout cinéaste et tout critique devrait, pour Jacques Rivette, se poser la question de la mise en scène. Le jeune cinéaste italien ne l'a pas fait, contrairement à, par exemple, à Alain Resnais dans Nuit et brouillard. Mais lire l'intégralité de ce recueil de textes critiques de Rivette, dont un cahier inédit, un long entretien aussi de 1999 par Hélène Frappa, permet, il me semble, de déplacer l'intérêt de Rivette critique de sa verve polémique à son idée, justement, de la mise en scène qui sous-tend sa véhémence. C'est Rivette qui a importé ce terme « mise en scène » du théâtre pour parler du cinéma. C'est pour ça qu'il parle souvent du « Carrosse d'or » de Jean Renoir, qui est un film sur le théâtre et la vie et sur le débordement perpétuel de l'un dans l'autre, parce que Rivette cherche toujours ce qui, au cinéma, tient ensemble les décors, le jeu des acteurs, la lumière, le récit. Et notamment, il développe cette recherche dans un très très bel article, très long, qui s'appelle « Lettres sur Rossellini » en 1955, où il compare Rossellini et le peintre Matisse pour leur attrait de la page blanche, de la plage vierge ouverte à l'invention du très juste. Donc, quand Voyage en Italie avec Ingrid Bergman et George Stevens sort, une partie de la critique écrit « mais c'est pas possible, il ne se passe rien » et Rivette en profite pour résumer tout le génie de Rossellini justement dans son exploration du temps mort. Je cite « D'où vient la grandeur de Rome ville ouverte de Paisa, sinon de ce brusque repos des êtres, de ces essais immobiles face à l'impossible fraternité, de cette lassitude soudaine qui les paralyse une seconde au sein même de l'action ». Donc c'est ce qui fait le prix de cette écriture à redécouvrir vraiment. C'est donc moins cet aplomb théorique dont on parlait que peut-être quelque chose de beaucoup plus secret et rare, mais essentiel, je crois, dans l'exercice à la fois du cinéma et de la critique, et qui serait l'art des modulations.
Ca quasi quasi mi mettesse a chiacchiera tante a felicità. Mio velo, non mio velo, ca so tornata a Napoli, mio velo ca stucca. O treno stava ancora in da stazione, quando a gente se prima mo.
Cette belle chanson de Voyage en Italie de Rossellini, je vous remercie Charlotte. Jacques Rivette, texte critique, édition établie par Miguel Armas et Luc Chessel, c'est chez Post Édition. Plan large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son, Yann Fressy dans l'exposition Renoir Père et Fils et Alex Dang à Radio France. L'émission était préparée par Pascaline Bonnet et réalisée par Somani Na. La semaine prochaine, fini les visites d'exposition. Nous serons en direct et en public du salon Radio France Faites le Livre à la Maison de la Radio, en compagnie du scénariste Fabien Nury et du dessinateur Bruno, qui livre dans Vintage and Badass le cinéma de Tyler Cross, les sources cinématographiques de leur géniale série de polars en bande dessinée. Il sera donc question de films noirs et on vous attend nombreux. Avant cela, j'aurai eu l'honneur, vendredi prochain à 17h, d'animer aux Beaux-Arts de Paris une rencontre avec l'immense cinéaste hongrois Bélatar dans le cadre du festival Un Week-end à l'Est, consacré cette année du 21 au 26 novembre à Budapest. Avec Bellatar, nous présenterons également son premier film, Le Nid Familial. Ce sera toujours vendredi prochain à 20h au Christine 21. D'ici là, vos programmes continuent sur France Culture. Dans un instant, Une vie, une œuvre, présentée par Christine Bernard, à propos d'un cinéaste qui nous est cher et à qui nous consacrerons un plan large. Ce sera au printemps prochain.